elle fait partie pour moi de ces rares humains qui sont comme des phares, parce qu'ils éclairent le chemin et grâce à ça, ils montrent des possibles. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en dehors de tout son travail sur les mathématiques, celle-là, c'est une pianiste et une connaisseuse de musique absolument remarquable, et c'est une cuisinière fabuleuse. Et elle sait un milliard de choses. Et je trouve que c'est magnifique qu'il y ait des humains comme ça, parce que ça permet d'élever le débat et d'élever le niveau de tous les autres.
Bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous pour cette Marche des sciences spéciale Grand Portrait, dédiée aujourd'hui à Stella Baruch. Comme le disait à l'instant la pédiatre et écrivain Catherine Dolto, Stella Baruch est musicienne, notamment au sens propre comme au sens figuré. Et c'est surtout la musique des mathématiques qui l'a fait connaître au grand public. Professeure de mathématiques, chercheure en pédagogie, elle a voué sa vie à un combat de tous les jours. Faire en sorte que l'innumérisme recule, que la langue des mathématiques devienne une langue maternelle, tout simplement. De livres en dictionnaire, de comités de réflexion en prise de parole médiatique, Stella Baruch s'est aussi muée en femme de terrain scolaire, présente auprès d'enseignants, persuadée que la méthode Baruch est celle qui fera que demain, on ne parlera plus d'élèves en difficulté en ce domaine. Un phare, Stella Baruch, elle l'est sûrement pour tous ceux qu'elle a sortis de l'ornière des maths. Un espoir en tout cas pour cette école d'aujourd'hui et de demain qu'il est plus qu'urgent de rénover. Rencontre donc aujourd'hui en direct du studio 1061 de France Culture, dans la Marche des sciences, avec cette femme hors du commun et une plongée dans son univers, son monde de l'enfance, ce qui la nourrit, ce qui l'agace, la porte. Femme de lettres, de mots et de formules mathématiques, une émission riche aussi en reportages et rencontres avec des proches de notre invitée, grâce à notre reporter Céline Duchesnay, présente à mes côtés, et le tout dans une réalisation signée Pascal Rayet, Stella Baruch, devant et derrière les paravents de la Marche des sciences. Bonjour Stella Baruch.
Bonjour Aurélie Glinot.
On vous a présenté aujourd'hui comme musicienne des mathématiques. Est-ce que vous avez le sentiment que ça vous caractérise bien, ça ?
C'est lourd à porter. Mais musicienne certainement, c'est une très grande partie de ma vie. Et musicienne en mathématiques, sans doute aussi, depuis que je connais le titre que vous me faites l'honneur d'accoler à mon nom et de porter.
Et oui, Stella Baruch, la musique des mathématiques.
Alors je dirais que effectivement, j'y ai un tout petit peu réfléchi en me disant que la pratique de la musique telle que je l'ai connue auprès d'un très grand professeur.
Qu'on peut citer ?
Irène Joachim. Mmh. Irène Joachim, qui était une immense artiste, qui a laissé son nom à Mélisande, la Mélisande qu'elle a chantée sous la direction de Roger Desormières.
Et elle était cantatrice soprano.
C'est ça. Et avec laquelle j'ai travaillé un certain temps, suffisamment pour qu'elle me fasse découvrir des horizons qui étaient totalement inconnus de la petite orientale que j'étais, qui connaissait Massenet, Tchaïkovski, etc., mais pas Darius Milhaud, pas Roussel, pas Ravel, voilà. Et comme elle était tout à fait en prise sur cette musique-là, cette belle musique française, ces belles mélodies françaises, il y a eu tout un travail sur la langue qui s'est fait à partir de la musique. Et ce travail sur la langue, c'est curieux parce que récemment, sur l'antenne de France Culture, j'ai eu le plaisir d'entendre, je crois que ce sont les greniers de la mémoire, des extraits d'un livre qu'elle m'avait fait découvrir et qui était la correspondance de Romain Rolland avec Richard Strauss. Richard Strauss, qui était en train de préparer Salomé et qui était perdu dans cette langue française. Il se fait d'ailleurs pas mal malmener par Romain Rolland qui lui dit qu'il n'y comprend rien, mais et qui lui explique que cette langue, avec ses œufs muets qui sont impalpables, qui sont comme des draperies, qui sont... Parce que l'autre lui disait, mais enfin, qu'est-ce qu'on dit ? On dit petite fille, ou on dit petite fille, ou on dit petite fille. Il devenait fou à travailler sur, évidemment, sur le Pelléas de Debussy. Mm. Et donc, cette langue française très approchée, comme elle disait, à un poil de grenouille près. Un poil de grenouille près. C'était ça, c'était la précision, c'était la beauté de la langue qui se liait avec la beauté de la musique. Donc, ça n'a fait que renforcer ma sensibilité à la langue, en effet.
Et oui, parce qu'il faut bien préciser que le français et la culture française, Stella Baruc, ce sont véritablement votre berceau, on peut dire, votre cocon d'enfance. Vous avez parlé de vos origines orientales. Vous êtes née à Yezd, en Iran. Mais en iranien, je crois qu'on dit Yazd, hein, c'est ça ?
Ah, quand on est chic, on dit Yazd.
D'accord. Parce que vos parents étaient instituteurs là-bas de l'Alliance israélite universelle. Votre père était d'origine turque. Hein. Vous me reprenez si je fais des erreurs. Votre mère palestinienne ?
Oui, c'est compliqué, mais c'est à peu près ça.
Les racines voilà, familiales d'origine. Vous avez vécu en Syrie, à Alep, à l'âge de 5 ans. Quelques années plus tard, vous êtes partie au Liban, à Beyrouth.
C'est ça.
Et dans toute cette vie, cette enfance dans ces pays-là, c'est vrai que pour vous, le français, la culture française était véritablement un ancrage.
Absolument, c'était, je n'ose pas dire le mot, mais c'était une identité. Je ne suis pas autre chose que ce que la langue m'a fait. Et cette langue qui était une pure merveille, parce que comme c'était une langue seconde pour mes parents, eux la voyaient comme un objet à la fois merveilleux, à apprivoiser, à analyser. Papa, c'était les calembours sans arrêt, c'était les jeux sur les mots, c'était tous les possibles, toutes les marquises d'amour, etc. Bon, une phrase pouvait être désarticulée, torturée, et c'était pour plus grand plaisir de tout le monde, parce que faire souffrir la langue de cette façon, c'est faire le bonheur de tout le monde. Mais maman, c'était la rigueur, la syntaxe, une syntaxe qui se devait d'être absolument parfaite. Donc, j'ai connu ces deux pôles, oui, entre lesquels je n'avais que la possibilité d'épanouir le mode d'expression que je souhaitais. Voilà. Et ben, ça a été un peu les deux, si je crois.
Bien sûr, on sent que dans votre parcours, tout cela est mêlé. Et quand vous parlez de la langue des mathématiques, vous avez aussi cet amour du français, de la langue, j'ai envie de dire presque maternelle, vous la ressentez comme ça, Stella Baruc. Mais alors, la langue des mathématiques, vous, dans ce parcours, cette enfance, qui vous l'a enseignée ? Ou est-ce qu'on se posait ces questions-là à l'époque ? Parce que l'enseignement des mathématiques devait être bien différent par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui.
Oh, il était en effet tout à fait différent. C'était un enseignement plat, si j'ose dire. Ça n'est pas péjoratif, c'est simplement un enseignement qui n'avait pas d'histoire. Hein. Il n'était pas question de pouvoir évoquer, quand j'étais étudiante, un mathématicien. On disait la lemniscate de Bernoulli. Mais Bernoulli, ça aurait pu être le bureau d'à côté. Enfin, bon. Donc, la question les questions que je pouvais me poser autour de la langue, d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai reparlé récemment d'un énorme éclat de rire que j'ai, qui est absolument inextinguible, qui m'a pris quand j'ai entendu la première fois le mot osculateur. Un cercle osculateur. Osculateur dans ma tête, ça faisait bousculer, perturbateur. Donc, ça faisait une espèce de cercle bousculateur. Et je me suis mise à rire. Et le professeur m'a foudroyé du regard. Bon, j'ai rien dit. Et depuis que je fais des dictionnaires et que j'ai la possibilité de m'interroger sur les mots, leur raison d'être, etc. Ben, je découvre tout simplement que ce cercle osculaire, et ça vient de baiser, embrasser. Et c'est le cercle qui tient une courbe la plus embrassée possible. Et ça, merveille,
mais
ça.
Mais oui, mais on ne vous l'avait jamais expliqué de cette façon-là à l'époque.
On ne me l'avait jamais dit.
Alors, vous arrivez en France à quel moment, Stella Baruc?
Dans les années presque 60, fin 50.
Pour vos études supérieures, c'est ça ou...
Non, je les avais faites à Beyrouth,
d'accord,
au Centre d'études mathématiques.
Et à partir de là, assez rapidement, on va vous confier un travail, c'est-à-dire l'enseignement d'élèves en difficulté. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été presque pédagogue par nature?
J'ai l'habitude de dire que la pédagogie, je l'ai en effet sucée avec le lait. Hein. Ça, mes parents et moi faisant les rares devoirs que j'avais à faire autour de la table familiale, eux corrigeant leurs copies, échangeant des impressions sur les trouvailles des élèves. Parce que c'est ça qui était merveilleux. Je n'ai jamais entendu juger un enfant sur les erreurs, entre guillemets, parce que peut-être que nous en parlerons, mais moi, erreur, je ne peux même plus dire le mot. Je dis qu'un enfant réagit, c'est tout, et que cette réaction se doit d'être prise en compte, analysée, expliquée.
Ce n'est pas forcément une erreur, mais c'est un raisonnement qu'il faut chercher à comprendre, parce qu'il y a une raison dans la réponse de chaque élève.
Exactement, c'est une réaction à l'action qu'on a tenter de faire, d'initier un enfant à quelque chose ou de lui dire quelque chose. Et donc, je ne les ai jamais entendus juger une erreur qui était, c'est dommage, je n'en ai pas en tête, mais c'était toujours à mourir de rire, les extrapolations faites de la langue française par des gens dont ce n'était pas la langue originelle, ni originale. Donc voilà, en effet, la pédagogie était quelque chose de profondément inscrit.
Alors on va justement se tourner vers Céline Duchesnay. Bonjour Céline.
Bonjour.
Vous avez enquêté un petit peu sur le parcours, sur l'univers de Stella Baruc et concernant peut-être ses élèves, ces personnes qui ont fait partie de son univers à un moment, ces élèves en difficulté, vous avez choisi d'aller en voir une.
Ouais, c'est vrai que je suis allée voir une de vos anciennes élèves, même si elle n'est pas restée bien longtemps entre vos mains. En tout cas, elle garde un souvenir très fort de votre présence et de votre pédagogie. Il s'agit de Catherine Dolto, qu'on a entendue au tout début de l'émission, donc pédiatre, écrivain, et qui est devenue depuis lors une de vos amies.
Elle a été dans ma vie comme une bonne fée, dans le fond. Elle a eu un fonctionnement de fée, mais à effet retard. Quand j'avais 14-15 ans, j'étais absolument nulle en maths et tellement profondément désintéressée des maths et tellement persuadée que de toute façon j'y comprendrais rien, que c'était exagéré quand même. Donc ma marraine, qui dirigeait une école de pédagogie nouvelle dans laquelle j'étais, connaissait Stella Baruc, qui s'appelait à l'époque Stella Matard, qui pour moi était Madame Matard, et j'y suis allée, rue du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, c'est un peu une expédition, et là, à ma stupéfaction, j'ai découvert que j'aimais les maths. Alors d'abord, j'ai trouvé cette personne très étonnante pour un enfant, enfin une adolescente que j'étais, parce qu'elle était à la fois sèche et exigeante et à la fois extrêmement gentille et chaleureuse. Je ne peux pas vous expliquer comment elle faisait le mélange, mais c'était comme ça. C'est-à-dire qu'on se sentait vraiment pris en main et guidé. Et si on suivait le chemin, eh bien on s'apercevait que les maths, c'était non seulement accessible, mais intéressant et amusant. Et donc, à ma propre stupéfaction, je me suis vue faire des équations le dimanche, pour le plaisir. Alors, ça a duré quelques mois, ça a rassuré tout le monde, moi en particulier. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis quand même aperçue que, même si je trouvais ça amusant, il y avait un million de choses que je trouvais plus amusantes, parce que j'étais assez curieuse. Et je suis redevenue relativement nulle en maths. Moins qu'avant, mais quand même, bon. Et puis, j'ai passé un bac philo sans aucune épreuve de maths. Ensuite, j'ai fait des études de théâtre et des études de sociologie. Et puis, en licence ou en maîtrise, je ne sais plus, tout d'un coup, j'ai décidé que je voulais être médecin. Je me suis je me suis plongée dans le travail. Et chaque fois que c'était difficile, en mathématiques ou en physique, je me souvenais... En fait, c'était comme des représentations visuelles de moi à côté de Stella en train de travailler. Et il y avait cette idée, si tu as pu à ce moment-là, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc voilà, c'est pour ça que je lui dois beaucoup, parce que même si je me dois d'avoir beaucoup travaillé, je suis absolument sûre que si je n'avais pas eu cette expérience vers 14-15 ans, je n'aurais jamais eu le courage d'entreprendre ça. Et sans doute pas les moyens de réussir. Alors, je trouve que c'est un grand privilège et que j'ai eu une chance énorme, mais ça me fait aussi beaucoup réfléchir à l'éducation et à tous les processus pédagogiques et à l'exigence qu'on a beaucoup actuellement d'une rentabilité immédiatement visible. Alors que ce n'est pas du tout comme ça dans la temporalité humaine. Il y a des choses essentielles, des phrases, des mots, des scènes qui ont un effet des années plus tard et pendant des années. Ça, c'est un viatique pour toute la vie. Voilà. Je suis un exemple de cet effet retard d'une pédagogie intelligente, mais exigeante.
Stella Baruc, je vois que vous avez l'air d'accord effectivement avec ce que dit Catherine Dolto. L'effet retard d'une pédagogie intelligente, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société qui veut tout de suite très vite et qui laisse peu de temps aussi aux enfants pour s'imprégner, ingurgiter, j'ai envie de dire, mais oui, s'emparer en tout cas des choses.
Oui, c'est une pédagogie qui ne laisse pas de temps ni à la tête ni au corps, si j'ose dire. Parce que quand il s'agit de la tête, Catherine, j'ai un souvenir très présent, malgré le temps passé, et il en est passé du temps, de quelqu'un qui est comme elle est, frondeuse, pas d'accord, prête à détourner les choses. Eh bien, en faisant ça, en disant « mais pourquoi c'est comme ça ? Et comment ça serait si c'était autrement ? Et si ça, c'était pas pareil, mais que ça restait pareil, est-ce que le tout serait pareil ?» C'était extraordinaire, c'était un vrai bonheur. Elle m'a donné l'occasion de me heurter parfois à des problèmes complexes. Et effectivement, il fallait essayer de la tenir, si j'ose dire. Mais donc, il y a ça, il y a ce côté frondeur des enfants qui est très souvent tout à fait naturel et qui n'est autre chose que le fait que leur tête marche.
Et qu'ils se sentent incompris. Alors, s'ils sont frondeurs, ce n'est pas parce qu'ils refusent d'entrer dans telle ou telle matière, et notamment les mathématiques, c'est parce qu'ils sentent quelque part qu'ils ne sont pas compris dans leur raisonnement ?
Non, s'il s'agit du raisonnement, c'est encore autre chose. Mais le côté frondeur, c'est par exemple, c'est récent, il y a un enfant qui me parlait d'une droite perpendiculaire à un point. Je dis, écoute, perpendiculaire à un point, c'est étrange ce que tu me dis là. Je vois pas, je crois pas que ça ait beaucoup de sens. Il me dit, mais alors pourquoi on le dit dans les cahiers ? Et je regarde. Les deux droites perpendiculaires au point O. Alors, oui. Évidemment, c'est tout à fait... elles sont perpendiculaires au point O, au lieu que ce soit perpendiculaire en haut. Au point, elles sont toutes les deux perpendiculaires. Alors, il faudrait dire droite perpendiculaire entre elles et se coupant au point haut. Alors, vous voyez, ça fait une longue périphrase. Bon. Mais ce raccourci fait qu'on entend perpendiculaire au point. Et donc, ça produit des effets de vacillation, comme ça.
Par rapport au sens.
Par rapport au sens. Donc, le côté frondeur, si vous voulez, c'est dans qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce qu'on me dit. Alors, plusieurs possibilités là, où l'enfant regimbe parce qu'il a une espèce de liberté, c'était le cas de Catherine, pour laquelle une définition, ça se discutait, alors que c'est supposé être indiscutable. Et d'autres enfants qui prennent sur eux, qui veulent être sages, qui veulent être gentils, qui veulent bien faire. Et par exemple, pareil, l'autre jour, je vois une petite fille qui arrive avec un devoir. Elle avait l'air désolée, elle ne savait pas où se mettre. 4 x 3 égale 15. 4 x 3 égale 15. Mais pourquoi ? Elle n'a même pas su m'expliquer. Je prends son cahier, je regarde ce qu'il en est. Eh bien, 4 fois, ça voulait dire un 3 répété 4 fois. C'était la définition de son cahier. Alors, répétez le 3 4 fois, donc il y a 3.
Oui,
je répète
ensuite,
une
4
fois.
Fois,
ça fait 3 encore, encore une fois, 2, encore une fois, 3, encore une fois, 4, ça fait...
Et oui, ça fait 5 avec le 3 d'origine. Oui, d'accord.
Ça fait 5 fois 3. Je veux dire, le 3 répété 4 fois, ça fait 5 fois 3. elle avait été, non seulement elle avait compris, elle avait trop bien compris, elle avait compris à la lettre. Et combien d'enfants comprennent les choses à la lettre, ce qui donne des effets qui ont l'air totalement surprenants pour le pédagogue, qui lui a complètement avalé toutes les couleuvres langagières qu'on lui a fait avaler et qui ne se rend même pas compte de leurs
conséquences sur certains parcours. Et c'est ce refus de l'injustice dans l'enseignement, Stella Baruc, que vous refusez, c'est votre moteur, ça.
C'est en effet une chose que je trouve insupportable.
Inacceptable,
même. Inacceptable sur des enfants qui n'ont pas, même des adolescents, ils n'ont pas les moyens de se défendre. Tout simplement parce que ça va se nicher dans des choses comme ça, auxquelles on ne pense pas d'habitude. Aller chercher la définition en se disant, mais regardez, elle ne fait pas autre chose que ce qu'on lui a demandé. Et j'en ai tous ces exemples dans mes livres, il y en a des centaines qui ne sont pas autre chose que ça.
Tous ces enfants qui vous ont aussi permis d'avancer et de penser autrement cette pédagogie. Alors, personnellement, Stella Baruc, est-ce que dans votre parcours, depuis l'enfance, vous avez aussi grandi avec des modèles soit de scientifiques ou autres, de personnages, de l'histoire des sciences, vous avez un panthéon un peu scientifique, vous?
J'ai un panthéon scientifique, en effet, qui s'est trouvé au cours du temps à faire toute la partie historique du dictionnaire, du grand dictionnaire qui m'a pris 14 ans. Je vous disais tout à l'heure, je viens d'un enseignement plat qui n'avait pas d'histoire. Et quand j'ai commencé ce dictionnaire, on m'a demandé combien de temps j'allais passer. J'ai dit 2 ans. Il m'en a fallu 14. Il m'en a fallu 14 parce que tout posait problème. L'origine du mot, qui l'avait employé, d'où ça sortait.
L'étymologie, l'histoire
autour
du mot.
Et donc, j'ai fait des rencontres à travers, en effet, tout ce travail. La rencontre de mathématiciens, justement, ce qui est très intéressant, c'est que quand vous dites le mot pédagogie devant un mathématicien, ça le fait fuir, ça ne l'intéresse pas. On laisse ça au... quand il y a des mathématiciens pédagogue, c'est un vrai bonheur. Par exemple, Le Bègue. Par exemple...
Henri Le Bègue.
Voilà. Par exemple, Laurent Schwartz. Et par exemple, de façon assez récente, j'ai rencontré, si j'ose dire, parce que pour avoir fait un travail sur la géométrie analytique, Clairaut, Alexis Clairaut, qui est un personnage absolument extraordinaire.
Et là, du XVIIIe siècle.
Oui, il est né en 1713. C'est ça. Et il a une histoire qui est absolument fabuleuse. Oui, il est mort en 1765. Il est le second fils d'une vingtaine d'enfants. Dit-on, une vingtaine d'enfants. Et alors, ce que j'adore, c'est... le fait que ça pose des questions qui n'ont pas de réponse, l'histoire de cet enfant-là. Il est fils d'un professeur de mathématiques. Il a appris à lire dans Euclide. Et comme, justement, la géométrie, ça allait, parce que c'est des figures, parce que ça se voit, etc. Le reste, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on lui a appris, on lui faisait des grilles en lui disant « Quand il y a 9, 9, 9, tu mettras 0, 0, 0 et puis le 1 après. » Ce qui n'est pas tout à fait ma méthode de procéder. N'empêche, cet enfant a été capable de proposer devant l'académie un mémoire sur les courbes gauches qui est absolument... Il était académicien à 16 ans. Et donc, cet enfant... Qui est né, qui a eu de telles facilités, parce qu'on dit souvent que les très bons professeurs sont ceux qui se sont eux-mêmes heurtés aux mathématiques, qui ont eu du mal. Eh bien, il a été passionné par la pédagogie et il a fait des éléments d'algèbre et des éléments de géométrie, l'un en 41 et l'autre en 46. Et on dit qu'il a fait... Première notion sur les mathématiques à l'usage des enfants, qui serait en manuscrit, c'est pas sûr, et que Diderot aurait envoyé à l'impératrice de Russie comme étant de Clairaut.
Ah, un père en pédagogie, alors, des mathématiques.
C'est assez extraordinaire, et il y en a d'autres, et je suis en train de travailler un petit peu la question, là, justement.
On en reparlera dans cette histoire des sciences. Et il y en a un, quand même, j'ai envie qu'on lui rende hommage, et je sais que vous l'aimez bien, c'est un mathématicien engagé, hein, et c'est concrètement Jean Cavaillès, on l'écoute, on l'écoute, pas lui, on lui rend hommage, c'est Georges Canguilhem qui lui rend hommage le 2 décembre 1945.
En mars 1943, il réussit sa mission à Londres, d'où il rapporte un programme d'action qui va multiplier ses risques du même coup que ses responsabilités. En juin, il échappe de justesse à la surveillance du contre-espionnage allemand pour tomber en août dans un filet plus serré et mieux tendu. C'est alors la prison de Fresnes, avec toutes les épreuves dont on sait assez maintenant le système et le régime. Parce que Cavaillès a pu confier à d'autres qui sont revenus d'où il n'est pas revenu, on sait qu'il était sans illusion sur ce que ses juges pouvaient connaître de son activité. Parce que ses juges ont laissé entendre à sa sœur et à son beau-frère arrêtés en même temps que lui, on sait que le tribunal allemand avait mesuré la qualité exceptionnelle de l'adversaire prisonnier. Certes, Cavaillès s'est défendu, mais sans tricherie. À la question posée, pourquoi vous, professeur, intellectuel de grande classe, êtes-vous devenu un agent de renseignement et un chef de saboteur? Cette réponse est donnée. Je suis officier, fils d'officier. Je continue la guerre avec les moyens à ma portée. Le reste, la politique ne m'intéresse pas.
Jean Cavaillès, hein, Stella Baruc, dans votre panthéon scientifique.
C'est un personnage en effet admirable. Je crois que c'est en prison qu'il a écrit, des ouvrages extrêmement importants. Je n'ai plus ça en mémoire, mais effectivement, l'ayant rencontré, j'avais trouvé tout à fait admirable cette possibilité de se tenir droit dans l'adversité avec la passion d'un savoir, justement du savoir mathématique.
Allez, une petite surprise dans cette émission. Il y en aura d'autres, mais quand même, celle-ci, c'est Céline Duchesnay à nouveau qui vous l'a concoctée. Et ce n'est pas sans rapport avec la musique.
Mais oui, parce qu'on a ouvert l'émission sur la musique. Alors, lorsqu'on lit votre livre « Naître en français », on sait que vous avez joué du violon, du piano, que vous avez chanté. Et cette passion pour la musique ne vous a pas du tout quitté, puisque par exemple, aujourd'hui, vous êtes présidente d'une association qui s'appelle Pont Alexandre III et qui a été fondée par le violoniste Alexandre Brusilovski. Alors cette association, comme son nom l'indique, fait le pont entre la musique russe et la musique française et s'intéresse particulièrement à la jeune scène classique avec par exemple des concerts d'enfants de 13 ans. J'ai ainsi interviewé Alexandre Brusilovski qui est revenu sur votre rencontre.
On se connaît depuis des années, on s'est rencontrés au Moulin d'Indé et depuis j'ai découvert une personne extraordinaire qui n'est pas seulement une grande scientifique, mais qui est très amoureuse de la musique classique et qui suit souvent mes concerts, mes enregistrements, qui est au courant de ce que je fais. Et donc, moi, je pense que c'est une amitié très, très naturelle parce que la mathématique et la musique sont très, très liées. C'est depuis Pythagore, vous savez, qui a découvert des choses qui ont donné la naissance à la musique classique. C'était encore 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Pythagore a découvert les relations entre les harmoniques dans la musique qui forment la note. Et il a découvert que telle ou telle longueur de la corde change la hauteur de la note. Il a découvert beaucoup de choses mathématiquement calculées. La musique baroque, par exemple, qui a toujours son mouvement autour du 60, du métronome. Et vous savez que le 60, c'est notre rythme biologique, c'est le battement du cœur, c'est l'aiguille d'une montre, etc., etc., etc. Donc je pense que l'amour de Stella pour les musiques classiques est très, très facilement expliqué. Stella aime la musique comme une grande mélomane, tout à fait émotionnellement et sans penser à ses recherches dans les mathématiques. Ma chère Stella, c'est une pièce de Ephraim Podgaitz que tu connais déjà. C'est un petit cadeau pour toi.
Vous êtes sur France Culture. Bienvenue dans la marche des sciences pour ceux qui nous retrouvent. Nous sommes en compagnie de Stella Baruc, professeure de mathématiques, chercheure en pédagogie, à qui nous consacrons toute cette émission spéciale Grand Portrait, avec cette combattante de terrain qui œuvre depuis plus de 40 ans à faire entendre une autre langue des mathématiques aux élèves en France. Et son dernier ouvrage en témoigne, Mes premières mathématiques. C'est pour les élèves, avec le guide du maître, bien sûr, pour les élèves de CP, tout juste édité chez Magnard et que l'on conseille fortement, bien sûr, à tous les maîtres de CP, les professeurs de CP pour la rentrée. Stella Baruc, ce cadeau qu'Alexandre Brusilovski a voulu vous faire, on avait presque le sentiment que lui-même vous parlait avec les notes.
C'est une superbe surprise et je le remercie beaucoup et je le remercierai. C'est une pure merveille ce qu'on peut faire avec un violon et je me souviens quand même des années de violon que j'ai faites quand j'étais toute petite avec un quart et il m'est arrivé de jouer devant des salles de plus de 1000 personnes qui me faisaient des triomphes. Pourquoi ? Parce que j'étais absolument microscopique. Microscopique avec un violon microscopique, mais dont j'arrivais à tirer quand même des sons, forcément. Et que j'avais commencé à travailler avec papa et avec un professeur russe, Monsieur Borisenko, je ne suis pas près de l'oublier.
Et votre père, qui d'ailleurs, il faut le signaler, aurait pu être chanteur professionnel. Il avait une voix incroyable, il était ténor.
Une voix absolument magnifique, oui. Et tiens, bah, il composait aussi de la musique. Eh bien, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, papa notait toutes ses chansons, toutes ses compositions, il les notait avec le système de Jean-Jacques Rousseau, qui n'a eu aucun succès, c'est-à-dire chiffré. Alors c'était des chiffres qui étaient barrés dans un sens ou barrés dans un autre sens pour les dièses ou les bémols. C'est extraordinaire, ça j'ai sous les yeux, je dois pouvoir retrouver ça dans ces papiers. Donc voilà, en effet, le violon, si j'avais continué, je ne sais pas ce qu'il en aurait été, mais on m'a fait arrêter parce qu'il paraît que ça m'empêchait de grandir.
Ah. Oh, encore ces, j'ai envie
encore
de dire, superstitions, oui, voilà. Ouais. En tout cas,
j'ai pas fait beaucoup mieux, mais bon.
Vous n'êtes pas très grande, mais enfin une grande dame dans votre combat mené pour cette langue des mathématiques, ça c'est certain. Et à votre image, c'est drôle parce que dans cette histoire des sciences, Stella Baruc, on se rend compte quand même que de nombreux scientifiques sont ou ont été des artistes, des musiciens, surtout des sciences dures, hein, comme s'il y avait ou ce besoin de musique pour faire avancer cette pensée. Vous avez été sollicité pour penser des réformes de l'enseignement, j'entends par ce monde politique.
Non, de manière institutionnelle, non, de manière par des personnes ou des institutions du genre, par exemple des IUFM, par exemple des inspecteurs qui me demandaient et qui m'invitaient dans leur circonscription, par exemple dans des universités. Je suis beaucoup, beaucoup intervenue dans toutes sortes de lieux. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce que je fais et qui met en jeu effectivement la langue, mais qui n'est pas que ça, qui est aussi épistémologie, qui est réflexion pédagogique. Quand vous m'avez, petite parenthèse, quand j'ai donc découvert ce titre que vous avez proposé pour cette émission d'aujourd'hui, je me suis dit que effectivement, ça pouvait tenir de deux façons. La justesse, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mathématique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il a fallu faire un énorme travail épistémologique justement là-dessus. C'est quoi un nombre? C'est quoi une figure? Ce n'est pas seulement la langue, n'est pas que la langue. Elle introduit, comme je dis, elle est une entrée en matière. Et cette entrée en matière, ça met en jeu la nature de cette matière. Qu'est-ce que c'est ? Que sont les mathématiques ? Eh bien, je crois qu'il y a de grands, grands, grands malentendus que nous héritons de l'école de Jules Ferry. Nous savons que Jules Ferry est un immense personnage et que l'école est une grande merveille, mais l'école primaire que nous avons, qui est héritée de celle-ci, qui devait faire un citoyen et qui fait des enfants de 8 ans des consommateurs tous azimuts, qui ne comprennent absolument pas ce qu'on leur veut. Quand il est question d'acheter un téléviseur en 3 versements, ils multiplient par 3.
Oui, parce que parfois, on leur propose ce genre d'exercice mathématique avec finalement un langage et un monde d'adultes, mais on demande à des enfants de réfléchir à ça. Donc, s'ils se trompent sur le prix de ce fameux téléviseur, ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'ils n'ont pas forcément la notion du prix du téléviseur. Même s'ils regardent grandement les écrans, c'est sûr.
Oui, j'ai quelques exemples là qui sont à mourir de rire sur sur un trajet, le prix d'un trajet ou la durée d'un trajet, je veux dire. Tout ça ressortit à ce que j'appelle l'identité quantitative des enfants, et à 8 ans, ils ne sont pas capables de faire ce qu'on fait à 18 ou à 20 ou à 30. Donc, la justesse, bon, d'une part.
Parce que je vous parlais du monde politique, c'était la Baruch. Je vous coupe parce que je pensais, bien sûr, dans les années 70, alors vous écrivez, votre premier livre, je crois, c'est en 73 qu'il paraît.
73.
Échec et maths. Oui. Et on est dans ces années de réforme ou d'application de la réforme des mathématiques modernes. Mm-hmm. Depuis cette époque-là, il y a eu des réformes, des tentatives de réforme. Quel regard vous jetez-vous sur ce monde des politiques, des ministères, des personnes qui réfléchissent et qui, comme ça, bouleversent les programmes mais de quelques années en quelques années?
Oui, la question que vous m'aviez posée antérierement sur... que vous ne m'avez pas posée exactement dans ces termes, mais qu'est-ce qui, par exemple, du travail que j'ai fait aurait pu
les aider
passer
à penser autrement ces réformes?
Il y a beaucoup de choses qui sont passées. L'importance de la langue, d'une part. Ça, c'est clair qu'on voit maintenant dans tous les manuels de mathématiques, on voit des lexiques ou des vocabulaires, alors que c'était supposé aller de soi. Une définition, c'est une définition. Et puis, le travail sur l'erreur. Mais le travail sur l'erreur, c'est renversé. Parce que si on travaille sur les erreurs pour dire « Regardez, vous voyez, celui-là, il est en difficulté. » Ça fait 40 ans que je me bats pour que l'expression « enfant en difficulté » disparaisse. Parce qu'elle est l'arbre qui cache la forêt. Donc, toutes les réformes qui se font, elles vont exactement en sens inverse de ce qu'il faudrait faire. À savoir, c'est pas l'enfant qui est en difficulté. Personne pourrait être en difficulté s'il y avait ce que j'appelle ces allers-retours de sens. Donc, musique en mathématiques ou des mathématiques, c'est justesse d'une part, et c'est cohérence d'autre part, comme un morceau de musique. Et cette cohérence, elle suppose de rendre mathématique ce qu'il est et pas mathématique ce qui ne l'est pas, de manière à ce que ça puisse coexister.
Et pour mieux faire sens aussi dans la tête de ces enfants. Je vous propose d'aller à l'école. On y retourne
là. Ah, c'est là. Avec joie, j'adore.
C'est là, Baruch, on repart à l'école. Allez, grâce à Céline Duchesnay, vous nous emmenez où, Céline?
On s'est tout de même dit que pour mieux comprendre votre univers et votre démarche, rien de tel que d'aller sur le terrain. Et alors, je suis allée dans une école primaire qui est située en zone sensible à Paris. C'est celle de la rue Maurice d'Ocagne. Et j'ai rencontré 4 professeurs des écoles de CP et de CE1 qui travaillent en équipe. Alors, je crois qu'on peut citer leurs noms. Donc, il y a Anouk Busutil, Ingrid Hurter, Anne Klingenberg et Guillaume Tremblay. Donc, tous les 4 vous ont découvert à travers vos livres, essentiellement L'âge du capitaine et Les contes pour petits et grands. Et ils ont décidé de faire leur programme de mathématiques à partir de ces ouvrages. Ils ont donc commencé en 2008. Ils ont créé leurs propres outils de travail, puisque votre manuel de mathématiques en CP n'existait pas encore. Puis, je crois qu'ils vous ont quand même très rapidement rencontré ensuite. Donc je vous propose de retrouver Anouk Busutil dans l'école Maurice d'Ocagne. Elle nous mène dans sa classe, dont les murs sont recouverts d'affiches qui sont très Stella Baruch. Anouk Busutil, vous nous amenez dans votre classe, je crois.
Oui, voilà, donc dans l'école Maurice d'Ocagne, là je suis dans la classe du rez-de-chaussée du CPCE1. Alors on va rentrer. Voilà, donc sur les murs, il y a des affichages qui nous servent beaucoup en mathématiques et qui sont un vrai support pour les enfants. Alors, d'une part, on a les nombres de 1 à 6 qui sont écrits en chiffres et en mots, en script et en attaché pour les CP pour le début d'année, et qui sont aussi représentés en bardois d'une part et en constellation de dés.
Alors, une bardois, qu'est-ce que c'est ?
Alors, une bardois, c'est la représentation idéalisée des doigts de la main, en fait, qui est vraiment la base sur laquelle on va s'appuyer pour représenter les nombres avec les élèves pour apprendre la numération.
Donc, ça veut dire que pour apprendre à compter, on se sert de ses doigts pour commencer, de ses deux mains ?
Voilà, c'est ce qu'on a toujours fait depuis la nuit des temps, et c'est vrai que... On a peut-être eu tendance à l'oublier à un moment, mais c'est très utile. Et les enfants, en fait, utilisent sans cesse leurs doigts, dès leur plus jeune âge d'ailleurs, pour compter, pour se représenter des nombres. Et plus tard, donc au CP, on va l'utiliser même pour des nombres plus grands que 10, puisqu'on va aller jusqu'à représenter des 38, des 46, avec les doigts, et puis ensuite sur le papier, en bardois, ça leur permettra aussi d'avoir une idée du nombre, de la quantité, chose qui n'est pas toujours évidente pour les enfants de CP qui ne voient pas ce que ça représente 46 en quantité.
Et alors peut-être justement, quelles seraient les erreurs typiques que pourrait faire un enfant en CP quand il n'a pas accès à cette méthode Stella Baruc ?
Alors peut-être pas en CP, parce que le CP, c'est normal qu'il fasse des erreurs. Alors là aussi, d'ailleurs, chez Stella Baruc, il y a quelque chose de très intéressant, c'est le statut de l'erreur. C'est-à-dire que quand un enfant fait une erreur, au moment où il apprend, c'est normal. Le problème, c'est quand l'erreur s'installe. Et un exemple typique d'erreur qu'on va retrouver chez des enfants qui sont en difficulté en mathématiques, plutôt au cycle 3, c'est-à-dire à partir du CE2 et puis du CM, ça va être par exemple l'écriture du nombre 46 avec un 4 et un 0 pour 40, et puis un 6 ensuite, hein, ce qui en fait veut dire 406, et qui traduit une incompréhension du système d'organisation en base 10, c'est-à-dire avec des recoupements par 10. C'est-à-dire que nous, justement, on va essayer de leur faire comprendre cette difficulté inhérente à l'écriture des nombres à deux chiffres, et puis après à trois chiffres avec les centaines, etc. Mais dès l'écriture des nombres à deux chiffres, ce qui distingue l'écriture des nombres à deux chiffres de l'écriture des nombres à un chiffre, c'est qu'à partir du moment où on est à deux chiffres, selon la position du chiffre dans le nombre écrit, la valeur de ce chiffre n'est pas la même. Un 4, s'il est en position d'unité, il vaut 4. S'il est en position de dizaine, il vaut 40.
Alors là, on a le cahier d'une petite élève qui s'appelle Julie. Donc, on travaille tout d'abord, comme vous pouvez le voir sur les premières pages, sur les nombres de 1 à 9, qui doivent être très bien connus à la fois dans leur écriture chiffrée et dans leur écriture en mots. Puis, on arrive directement à l'écriture de 37 en mots et en nombres.
Et avec toujours des représentations des mains.
Avec toujours des représentations des mains, effectivement, 37, on voit que c'est 3 paquets de 10 doigts et 1 paquet de 7 doigts.
Et puis, ce qui change aussi, c'est que du coup, à partir du moment où personne n'est exclu des apprentissages, il y a plus de plaisir dans la classe, parce que les enfants, ils se sentent en réussite. Cette maîtrise de l'abstraction, ça pour eux, c'est oui, une source de plaisir.
Quand j'ai lu les contes pour petits et grands de Stella Baruc, et L'âge du capitaine aussi, dans lequel elle parle de ses enfants qui sont en perdition mathématique, je me suis rendu compte que y avait peut-être une solution, et que il n'y avait pas d'enfants nuls en maths, et qu'il y avait juste peut-être des façons d'expliquer, de nouvelles façons d'expliquer qui leur permettraient de comprendre. Et c'est ce à quoi on s'attache, Anne, Ingrid, Guillaume et moi. On s'attache à faire dans nos classes, essayer de faire en sorte que les enfants ne se considèrent pas nuls en maths à 6 ans ou à 7 ans, parce que c'est absolument désastreux, et en tant qu'enseignant, on ne peut pas accepter ça.
Petite précision peut-être, Céline Duchesnay, par rapport à votre reportage, cette méthode.
C'est que la méthode de ces quatre enseignants ne se cantonne pas à cette école, puisque cette année, ils ont commencé à transmettre leur savoir en organisant des rencontres avec leurs collègues de l'arrondissement. Donc, on peut déjà dire que la méthode Stella Baruc est en train de se propager dans le 14e arrondissement de Paris. Affaire à suivre.
Merci. Alors Stella Baruc, c'est vrai que beaucoup de personnes, quand on discute de vous, de votre travail, de ce que vous avez mis en place, initié et proposé, beaucoup se demandent, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas plus répandu ?
Très bonne question, dont je n'ai pas la réponse.
Donc finalement, sur le terrain, ce sont des instituteurs qui s'en emparent et puis petit
Exactement.
À petit, entre eux, de bouche
Exactement.
À oreille,
Ça
ils
marche
en parlent.
Par des personnes, les institutions sont sourdes. Et elles sont sourdes même quand on leur propose un travail, si j'ose dire, clé en main, tout préparé, c'est arrivé. Un inspecteur qui est quelqu'un d'absolument remarquable, qui s'appelle Patrick Bernard, qui travaillait dans le 19e arrondissement, qui est un arrondissement difficile, vraiment un des plus difficiles de Paris. Un directeur absolument remarquable et une équipe, là encore, d'enseignants. Ils étaient tous enthousiastes à vouloir tenter ce qui était mon projet premier. Mon premier projet, c'était... Il était ambitieux, il l'est toujours, hein. Je ne sais pas si j'aurai la longévité nécessaire, mais il consiste à penser que si on travaille avec les enfants en changeant la relation à la matière et à la manière, comme je dis, matière et manière, eh bien, le problème du collège ne se posera simplement pas. C'est-à-dire que la question fondamentale en mathématiques...
Les bases partout, du primaire, ce voilà. vous suit, vous permettent un meilleur collège qui lui-même
Exactement.
Permet un bon lycée, etc.
C'est la même chose
en cascade.
Partout. Mais en mathématiques, c'est absolument essentiel, c'est cette verticalité. Oui. Donc, mon projet premier, c'était de montrer qu'en partant du CP, etc., en arrivant jusqu'au CM2, le fameux problème qui est celui des enseignants pour lequel ils se cassent la tête, des liaisons CM2 6e, il y a une incroyable littérature, mais c'est au CP que ça se passe. Et donc, un projet de ce genre a été proposé, tout le monde était d'accord, même l'inspecteur d'académie était d'accord, ils n'ont pas trouvé les crédits. Voilà.
Bon, donc c'est un problème des derniers, de crédit. Après, il faut faire vraiment passer ce message au moins par rapport à ces solutions que vous nous proposez déjà dans vos livres, Stella Baruc. Et puis, ça pose aussi la question de la formation des enseignants, parce que là aussi, ce sont des méthodes et des façons de faire qu'il faut à nouveau inculquer à ceux qui se retrouvent devant les élèves.
Voilà, alors voilà pourquoi ce travail m'a demandé 3 années, parce que j'ai essayé de tresser, si vous voulez, à la fois le travail fait avec les enfants et un travail fait avec les maîtres. En général, cette mixture, si j'ose dire, c'est-à-dire les enfants et leurs maîtres, qu'on doit arriver à faire évoluer ensemble, s'avère être pratiquement impossible. Pourquoi ? Parce que quand on donne quand on fait travailler les enseignants à partir de notions mathématiques abstraites, dont ils se disent qu'ils n'ont que faire dans la classe, ça ne marche pas. Quand on leur donne des trucs qui ne sont que pédagogiques, c'est-à-dire vous faites ceci, vous faites cette manipulation, etc., ça ne marche pas non plus. Il n'y a pas la hauteur nécessaire, le point de vue, pour qu'il y ait des résultats. Bon. Ce que j'espère avoir obtenu dans ce livre du maître, c'est d'arriver à tisser ensemble le côté pédagogique, c'est-à-dire tout de suite ce qu'on fait dans la classe, mais avec quand même un regard épistémologique important. Un nombre, ce n'est pas un nombre de pommes. Une figure, ce n'est pas le dessin gribouillé sur un papier, etc. etc.
En sachant que vous avez quand même à chaque fois expérimenté ce que vous mettiez en place dans les classes, hein, pour voir si ça fonctionnait.
Absolument, absolument.
Allez, Catherine Dolto vous pose une question. On arrive presque au terme de cette émission. En même temps, je suis sûre que des auditeurs l'ont en tête.
Est-ce que tu imagines qu'il y a des gens dont vraiment le fonctionnement cérébral leur interdit l'accès aux mathématiques simples ? Je ne parle pas de faire une carrière en mathématiques. Mais l'arithmétique, les mathématiques simples telles qu'elles sont utiles dans le quotidien, est-ce que tu penses qu'il y a des gens pour qui c'est impossible d'y accéder ? Ou est-ce qu'avec une bonne pédagogie, tout le monde pourrait y arriver ?
Eh oui. C'est ce que je défends depuis 40 ans. Il n'y a pas de raison à l'échec en mathématiques, il n'y a que des raisons. Et ces raisons ne sont pas le fait de l'enfant s'il parle, s'il court, s'il vous répond de manière sensée. Il n'y a aucune raison, bien sûr. Et au contraire, combien en voit-on la petite fille dont je vous parlais tout à l'heure, qui était si docile à appliquer la définition et qui montrait une compréhension, une surcompréhension de la langue, extrêmement intelligente. Eh bien, elle risque, si on ne s'en aperçoit pas, de passer pour inapte à faire des mathématiques, ce qui est quand même une chose assez insupportable et qui rejoint l'injustice dont la question de la justesse qui ici devient justice. Il faut savoir être juste dans l'interprétation qu'on fait des réactions des enfants. C'est pour ça que je ne peux plus parler d'erreur. Ah, tu as compris ça? Ah, c'est ça que tu as compris? Attends, je vais te poser la question autrement. C'est merveilleux. Ou bien alors, mais est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as répondu ça? Parfois, ils savent, et quand ils savent, je suis désolée, vraiment désolée. Voilà, ça me donne la chair de poule. Ça me donne la chair de poule.
Et physiquement, on le voit sur vous, Stella Baruch.
De penser à tous ces enfants qui sont des merveilles de potentialités et qui très souvent sont... Voilà.
J'ai envie de dire presque brisés dans cet élan de la jeunesse et qui peuvent être brisés aussi dans leur parcours professionnel après. Et ce n'est pas rien, et c'est pas juste
non,
un monde d'enfants.
Non, et avec les meilleures intentions de tout le monde. Hein. Il faut voir, personne n'est méchant. Hein. Personne ne leur veut du mal, ni l'institution, ni...
Mais c'est un dysfonctionnement à la base dans cet enseignement-là.
Pour rejoindre ce que vous me disiez, l'institution continue à se tromper obstinément en mettant le paquet sur les difficultés des enfants et sans regarder une seconde de quelle façon elle est elle-même en difficulté. Donc, on va vers une détérioration de plus en plus terrible. Ça va devenir du préceptorat.
Allez, dernière facette qu'on va vous révéler aujourd'hui, mais il y en a tellement sur Stella Baruch qu'on vous renverra aussi sur ses livres. Stella Baruch, vous avez aussi écrit pour la radio notamment des pièces de théâtre. Il y en a une qui s'appelle Le mal des mots. Et là, on va sentir tout votre regard aussi sur l'évolution de la société, ses peurs et puis cette crainte aussi pour la langue de demain.
Jean, comment peux-tu être à ce point indifférent au gâchis, au marasme, à la détérioration du monde où tu vas vivre?
Quel gâchis!
Enfin, tu as beau avoir passé 15 ans à sillonner le cosmos, tu ne peux pas ignorer ce qui s'est passé sur Terre.
Quoi?
Le référendum de 2100, juste après ton départ. La décision prise de grouper les humains en communautés de spécialistes. Prétexte invoqué, le jargon des uns est imperméable aux autres. D'où les technofédérations, dirigées par des technomates.
87-33% de oui. Tu vois comment la différence est surfaite. 87-33% de oui. Donc, voilà tout de même l'affirmation franche et massive de tendances profondes.
Des tendances à l'anarchie, oui. Enfin, c'est absurde. Absurde. Comment les hommes ont-ils pu en arriver là? Mépriser leurs philosophes, encenser leurs spécialistes. L'esprit garrotté, la culture asphyxiée, la technique triomphante. Le règne des jargons spécialisés, la mort lente et sûre de notre langue, étouffée par cette prolifération monstrueuse de mots, de mots, de mots, de... Et quand je songe que tout ça était prévu, tu m'entends? Étienne, le Bidois, Georgin, tant d'autres. Denis de Rougemont, Rémy de Gourmont, jusqu'à Dante, lui-même.
Loué soit leur perspicacité.
Alors, Stella Baruch, cet aspect caché peut-être, auteur de pièces de théâtre, mais toujours en rapport avec la langue.
Oui, écoutez, c'est très, 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 très émouvant parce que c'est très ancien. Je ne sais
alors,
plus.
Ça date du 2 octobre 1966, c'est la date de diffusion. On imagine que vous y avez travaillé longuement avant.
Ah oui, j'ai dû y travailler. J'étais moi-même travaillée par cette question des mots, du mal des mots, du fait de se comprendre, de ne pas se comprendre. C'était quoi se comprendre? C'est un sujet bateau, mais comme il y avait cette case du théâtre de l'étrange qui permettait toutes les fantaisies, eh bien, justement...
Sur France Culture, à l'époque, d'ailleurs.
Je crois me souvenir que c'était, qu'on essayait de fabriquer des mots nouveaux et qu'ils tenaient ou ils ne tenaient pas. S'il dépassait une certaine longueur, il se disloquait.
Mais là, c'est tellement en résonance avec la société d'aujourd'hui aussi, on a ce sentiment-là.
Absolument. Il commence à y avoir une espèce de langue que, à partir d'un certain moment, on ne comprend plus. Enfin, il y a des mots qui entrent dans le dictionnaire et Je ne sais pas si ça va les naturaliser, mais on a parfois du mal à comprendre avec tous ces anglicismes, tout ce langage sorti de l'informatique. Bon.
Il paraît que l'expression « lol », d'ailleurs, oui, entre dans le dictionnaire.
Oui.
Voilà. Bon, mais écoutez, peut-être rapidement, en quelques secondes, un conseil peut-être pour les jeunes, justement ?
Conseil.
Ou s'ils veulent devenir professeurs de mathématiques, par exemple, aussi.
Oui, un conseil. Je crois que s'ils se rendent compte que chercher un problème, d'abord, voilà, se donner les moyens de chercher un problème, de réfléchir. Moi, j'en vois tellement qui sont absolument pris par un défi. L'idée du défi que représentent les mathématiques, eh bien, c'est un moteur pour énormément d'enfants et d'adolescents et de mathématiciens.
Merci Stella Baruc. Et avant de se quitter, on peut rappeler certains de vos livres que les auditeurs pourront retrouver sur franceculture.fr à la page de la Marche des sciences. Naître en français, publié chez Gallimard. Le Dico des mathématiques, au Seuil. Mes premières mathématiques pour les élèves de CP, édité chez Magnard et que nous recommandons chaudement pour la rentrée. Et puis je vous rappelle bien sûr que vous pouvez télécharger l'émission pendant un an et l'écouter pendant 1000 jours. Merci à toute l'équipe de La Marche des sciences, Catherine Donnet, Céline Duchesnet, Catherine Louis-Delina, pour ce dernier grand portrait de scientifique rediffusé cet été en partenariat avec le magazine Science et Vie. Merci aussi à Pascal Rayet à la réalisation et Alexandre Dang à la technique. Et enfin, merci à vous tous pour votre fidélité tout au long de l'été. La semaine prochaine, retour de la Marche des sciences dans son créneau habituel, tous les jeudis, de 14h à 15h, avec comme première émission de rentrée, un hommage à la science et à la technique de la radio. La radio, il y a 50 ans, à l'occasion des 50 ans de la Maison Ronde et de notre chaîne France Culture. Et notre invité sera l'historien des techniques, Thierry Lefèvre. D'ici là, encore de beaux programmes à venir dans cette grille estivale avec dans un instant Olivier Weber et ses écrivains dans la guerre. Et avant de se quitter, dernier conseil du jour en pensant à Stella Baruc. Soyez aventureux et audacieux. Bon week-end à tous.